Vraiment, parce que je crois que c'est quand même toujours utile de reprendre. Ça fait partie de ces exigences philosophiques. Hein. Ce n'est pas tellement d'étendre nos connaissances que d'essayer toujours de revenir vers les choses essentielles et principales. Nous avons donc essayé de comprendre, à partir du problème de l'homme, ce que je vous ai dit, c'est vraiment l'homme qu'on interroge au plan philosophique. Et au plan de la philosophie première et de la métaphysique, on essaie de comprendre ce qu'il y a de foncier, de premier dans l'homme, dans sa manière d'exister. Cette fameuse affirmation de Descartes, j'existe, je suis. Alors je ne me prends pas du tout comme une conclusion, je pense donc je suis, mais je dis au contraire, j'existe. Première fois, dans l'affirmation j'existe, je sais que je pense. Mais c'est plutôt de cette manière-là que je dirais, puisque j'affirme que j'existe, en affirmant que j'existe, je sais que je pense. Je ne dirais pas je pense donc j'existe. Et c'est intéressant parce que ça montre l'inversion qui s'est faite au point de vue de la pensée. Et c'est vrai, c'est à partir de là qu'on peut dire que la philosophie a pris une tournure toute différente. C'était avant Descartes, puisque Descartes a eu des professeurs qui étaient suarésiens et que ces professeurs suarésiens lui ont donné un certain venin, n'est-ce pas ? On peut le dire, qui fait que Descartes a affirmé cela. Mais je crois que l'affirmation de Descartes, je pense donc je suis, si nous essayons d'avoir une philosophie réaliste et non pas une philosophie qui commence par les idées et donc une idéologie, il faut tout le temps revenir à cela, essayer de comprendre la différence qui existe entre une philosophie réaliste qui essaie de comprendre la réalité première que nous essayons de comprendre, c'est nous-mêmes. C'est ça, la première chose qu'on doit essayer de comprendre, c'est ce qu'on est. On est un animal extrêmement complexe, difficile, qui par moment pense, qui par moment aime, et qui mange, et qui boit, et qui dort, qui est fatigué, et qui à certains moments, au contraire, est plein de vitalité. On doit essayer de comprendre ce que c'est. Cette réalité complexe que nous sommes et la comprendre dans sa réalité la plus profonde, j'existe. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? J'existe et j'existe avec toutes les autres réalités qui sont autour de moi. Et c'est ça la première chose au point de vue d'une philosophie réaliste. C'est de constater qu'il y a des réalités qui s'imposent à nous. Et qui s'imposent à nous d'une manière telle que elles sont antérieures à notre pensée. Tandis qu'au contraire, dans les idéologies, c'est l'idée qui est première et qui ramène tout à nos idées. C'est pour ça qu'il faut saisir que la philosophie, elle est ordonnée à l'homme, alors que les idéologies ordonnent l'homme à la propre pensée qu'on a. Toute la différence qui existe entre les idéologies, il y a toujours eu des idéologies, et il y en aura tout le temps. Et puis, il y a un effort philosophique qui essaie de comprendre la réalité telle qu'elle est. Ce qui est difficile, c'est très très difficile de comprendre la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire de supprimer tous nos a priori. Alors, nous en avons des quantités d'a priori. Des a priori affectifs, des a priori politiques, des a priori humains, des a priori... Non, des quantités. Il faut arriver petit à petit à supprimer ces a priori pour redécouvrir la réalité telle qu'elle est. Et je dis bien redécouvrir. Parce que de fait, on nous a communiqué des quantités de choses, on les a plus ou moins bien avalées, parce qu'il fallait passer des examens, et alors, de fait, on attrape quelquefois des indigestions, au point de vue de la pensée. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on a mal assimilées et qu'on continue de répéter sans très bien savoir ce que c'est. Et le prof du philosophe, c'est le prof de la philosophie réaliste, c'est d'essayer de revenir à la réalité telle qu'elle est, en comprenant que c'est très difficile de reprendre cette espèce de regard naïf, c'est-à-dire simple, une naïveté profonde de l'intelligence qui revient au-delà de tous les plis qu'elle a eus à quelque chose de fondamental. Au fond, la philosophie, et surtout la métaphysique, c'est d'essayer de revivre ce qu'il y a de fondamental dans notre intelligence, dans notre esprit. Redécouvrir qu'il y a en nous une capacité de découvrir la réalité et donc de comprendre un tout petit peu ce qu'est la vérité. Parce que la vérité, c'est d'essayer de comprendre la réalité telle qu'elle est. La vérité au sens profond. Or, la philosophie, au moins notre philosophie occidentale, dans son point de départ, et la philosophie orientale aussi, c'est une recherche de vérité. À partir de Descartes, ce n'est plus une recherche de vérité. C'est une recherche de certitude. Vous comprenez qu'être certain sans vérité, ce sont des a priori. Et au fond, c'est ça qu'on doit essayer de saisir. Quand on est certain, il y a des gens qui sont têtus comme des bourriques et qui sont absolument certains de ce qu'ils disent. Mais on leur dit, mais non, c'est pas la vérité. Ah, ça n'a pas d'importance, j'en suis certain. Ah oui, vous allez vous casser le nez. Forcément. Parce que si on est certain et que ce n'est pas la vérité, un jour, on se réveillera en disant, mais quoi, c'est pas tout à fait ça. Alors, les certitudes, c'est très bien. Il faut avoir des certitudes au point de vue pratique, c'est bien évident. Parce que si vous êtes constamment dans le doute, vous n'avancez pas. Il faut avoir des certitudes. Mais les certitudes, il faut pouvoir les vérifier et se dire que ces certitudes, elles sont fondées sur une vérité. Donc la vérité est quelque chose de plus fondamental que la certitude. Ce n'est qu'à partir de Descartes où la certitude a été donnée comme une chose première. Et ça, je crois que c'est très important de bien saisir ce tournant de la pensée. Et ce tournant de la pensée est venu avec les idéologies. Dans les idéologies, la certitude est antérieure à la vérité. Dans une philosophie réaliste, c'est-à-dire une philosophie qui essaie de comprendre le réel tel qu'il est, la réalité telle qu'elle se donne à nous, dans une philosophie qui cherche à atteindre la réalité, la vérité est première par rapport aux certitudes. Les certitudes sont secondaires. Elles sont nécessaires, elles sont bonnes, c'est évident qu'il faut avoir des certitudes dans la vie. Mais c'est second. Ce qu'il faut chercher en premier lieu, c'est le point de vue de la vérité. Et c'est très curieux de voir, au point de vue de l'histoire de la pensée, de la philosophie, c'est que, de fait, la philosophie est née dans une recherche de vérité. Et à un moment où l'idée a été avant la réalité, la certitude est devenue avant la vérité. Ça, je crois que nous devons le comprendre, parce que nous sommes inondés d'idéologie dans notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes inondés d'idéologie. Nous sommes inondés de certitudes. N'est-ce pas ? Alors, il faut de temps en temps avoir un peu cet esprit tout simplement critique, qui consiste à dire, mais ces certitudes reposent sur quoi ? D'où viennent-elles ? Ces idéologies, d'où viennent-elles ? Comment sont-elles nées ? Et quand il s'agit des idéologies, il faut toujours chercher l'ordre d'origine, vous voyez ? C'est ça qui est premier dans les idéologies. D'où c'est né ? Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de contact avec la réalité. C'est nous. C'est nous dans notre pensée. Ce n'est pas l'homme. C'est l'idée de l'homme. C'est pas la même chose du tout. C'est l'idée de l'homme qui est première. Parce qu'on pourrait dire, vous voyez, dans une philosophie réaliste, si c'est l'homme qui est premier, dans les idéologies, c'est l'homme qui est premier. Non, c'est pas l'homme qui est premier. C'est l'idée. Et on considère l'idée comme plus importante que l'homme. C'est terrible de regarder que les idées sont plus importantes que l'homme. Si ces idées me conduisent au malheur, alors, les idées, à la place d'aider l'homme à être pleinement lui-même, ils vont mettre l'homme dans des casiers. Et donc, il faut comprendre que les idéologies qui proviennent de l'homme sont au service de l'homme. Et c'est en ce sens-là que je reviens alors à quelque chose qui est avant l'idée, c'est l'homme. Donc toute notre philosophie doit être une philosophie réaliste. C'est en ce sens-là que toute expérience doit être respectée. Je n'ai jamais le droit, a priori, de rejeter une expérience. Je peux la critiquer, tout à fait. Parce que si ce n'est pas mon expérience, c'est l'expérience de quelqu'un d'autre, je n'ai pas toutes les expériences humaines. Ce serait monstrueux de dire « j'ai eu toutes les expériences qu'un homme peut avoir ». C'est impossible. Chacun d'entre nous, nous avons un certain nombre d'expériences. Et plus nous avançons dans l'âge, plus nos expériences augmentent, heureusement. N'est-ce pas ? Et on reste toujours capable de nouvelles expériences. Si on a un regard réaliste, parce que l'idéologue n'a plus d'expérience. Il a des pneus usés qui ne mordent plus au réel. Alors il dérape. C'est le propre des idéologies. Ça, c'est très très curieux. Les idéologies ne respectent plus l'expérience. Ils ne veulent pas regarder les expériences d'eux-mêmes et des autres. Et ça, on le voit tout de suite. C'est l'idéologie qui passe avant. Alors, au point de vue politique, ça fait des catastrophes. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est l'idéologie qui passe avant. Et c'est l'idéologie qui va mesurer l'homme. Peu importe que l'homme crève, ça n'a aucune espèce d'importance. L'idéologie est sauvegardée. Alors qu'on doit considérer que l'homme est beaucoup plus important que l'idéologie, puisque l'homme est source des idéologies. Et donc la source est plus importante. C'est quelque chose de plus important. Et qu'au-delà des idéologies, il y a notre capacité d'aimer. L'amour n'est pas une idéologie. Je crois que c'est toujours par là qu'on peut aider quelqu'un qui est dans une idéologie à sortir de l'idéologie. Ce qui n'est pas commode. Parce que quand on est pris par les idéologies, on a beaucoup de peine d'en sortir. Et je crois que c'est toujours par le point de vue de nos expériences d'amour. Dès qu'on aime quelqu'un, on considère celui qu'on aime comme devant nous. On est relatif à celui qu'on aime. Si vous dites, moi j'aime, mais je mets la personne que j'aime relative à moi, à ce moment-là, vous êtes bien obligé de reconnaître que votre amour n'est pas vrai. Parce que quand on aime, on est tourné vers l'autre. Quand on aime, on est tout entier ordonné vers l'autre. Et on ne fait pas que l'autre soit ordonné à nous. Et donc, l'expérience même d'un amour, et d'un amour spirituel, d'un amour d'amitié, d'un véritable amour, nous fait comprendre qu'il y a autre chose que les idéologies. Il n'y a pas d'idéologie de l'amour. C'est très curieux. Et vous voyez, philosophe Hegel, qui est à l'origine de toutes nos idéologies contemporaines, Hegel, au point de départ de sa vie, a parlé de l'amour, et au terme, on n'a plus parlé du tout. C'est très significatif, ça. L'idéologie, plus elle prend place chez le philosophe, plus elle fait que le philosophe ne parle plus de l'expérience principale de l'homme, qui est sa capacité d'aimer. C'est l'expérience majeure de l'homme, c'est sa capacité d'aimer. On est heureux dans la mesure où l'on aime. Et dans la mesure où l'amour qu'on a est vrai. Parce que si l'amour qu'on a est un peu idéaliste, quand on se réveille, on voit qu'à la place d'aimer vraiment quelqu'un qui est notre bien, on a eu une espèce de mirage. On a aimé un idéal. Aimer un idéal ne nous rend jamais heureux. C'est aimer une personne. Aimer un idéal, c'est très bien, ça peut nous dépanner momentanément. Il faut de temps en temps se mettre un petit idéal pour se dépanner momentanément. Mais il faut bien de temps en temps, on gonfle les pneus. Mais au fond, l'idéal ne peut pas nous donner le bonheur. Seule la réalité existante et seule une personne existante peut donner à l'homme un vrai bonheur. Parce que c'est un bien qui existe. Donc, on sort des idéologies par l'expérience de l'amour. Et l'expérience de l'amour va nous conduire à découvrir ce qu'est la personne de l'homme. voir pourquoi une personne est capable de m'attirer, de susciter en moi un amour et d'être pour moi source de bonheur. Donc voyez comment le problème va tout de suite se poser de la question de la personne humaine. C'est pour ça qu'on peut dire que la philosophie, c'est la recherche de la personne humaine. C'est la recherche de l'homme. L'homme et la personne. Les deux se tiennent. Dès qu'on parle de personne, on parle de l'homme. Dès qu'on parle de l'homme, on parle de la personne. Et les deux se tiennent. Il y a quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus abstrait quand on parle de la personne, et quand on parle de l'homme, on parle quelque chose de plus concret, normalement. Le langage plus immédiat, c'est l'homme. Et dès que vous parlez au point de vue philosophique, vous parlez de la personne humaine. Et vous direz que le philosophe cherche ce que c'est que la personne humaine. La personne humaine dans toutes ses dimensions. Et toute la philosophie réaliste revient toujours à rechercher l'homme dans toutes ses dimensions. Alors, nous avons vu, au point de départ, quelles sont toutes ces dimensions de l'homme. Et je vous l'ai dit, il faut toujours les garder devant notre esprit. C'est le fond sur lequel la philosophie doit tout le temps s'inscrire. Chaque recherche philosophique doit toujours s'inscrire dans ce fond. Autrement, nous risquons de faire alors des petites études particulières avec des informations particulières. On n'est plus dans un regard philosophique. Dans un regard vraiment philosophique, il y a toujours l'homme qui est présent. Et c'est la très grande différence entre la philosophie et les sciences. Dans les sciences mathématiques, l'homme n'est pas toujours présent. Ça, c'est bien évident. Le mathématicien, il est heureux dans ses mathématiques, il est très heureux dans ses mathématiques, mais il sait très bien qu'il ne regarde pas l'homme. L'homme est plus que les mathématiques. Ça, c'est sûr. Le physicien ne regarde pas l'homme directement. Même le biologiste, il regarde le vivant. Le psychologue devrait regarder l'homme, mais ne regarde pas l'homme. Et la personne humaine en premier lieu. Il regarde les manières différentes dont l'homme réagit dans tel ou tel milieu. Il regarde le conditionnement humain. Toutes les sciences ne regardent pas immédiatement l'homme. Ils n'ont pas une référence immédiate avec l'homme. Je crois que c'est ça qui fait la différence entre la philosophie et toutes les sciences. Pour le philosophe, en tant que philosophe, il a toujours référence avec l'homme. Et c'est pour ça que c'est très important, au moins au point de départ d'une philosophie, d'essayer de comprendre toutes les dimensions de l'homme. Et comprendre que les recherches qu'on fait sont toujours à préciser ces diverses dimensions de l'homme. Alors, je vous rappelle ces dimensions de l'homme, parce que je veux les remettre en acte pour vous, et pour bien préciser ce que nous faisons ensuite, au point de vue philosophie première, au point de vue métaphysique. Il faut donc bien avoir ces dimensions de l'homme présentes à nous. Première dimension de l'homme, il faut tout le temps venir à cela. Première dimension de l'homme, l'homme est capable de transformer l'univers. L'homme est un être qui domine l'univers. Plus ou moins, c'est évident. De temps en temps, il est dominé par l'univers. Hein. On est dominé par le soleil. Hein. Il fait chaud, il fait froid. Ce n'est pas nous qui commandons ça. Après avoir des journées très grosses chaleurs, on peut avoir des journées glaciales. Ça peut revenir au galop. On sait très bien. Et on dit que l'homme domine l'univers. Il ne domine pas le soleil. Il est dominé par le soleil. Mais il a une capacité de transformer l'univers. Donc toute la philosophie du travail. L'homme est capable de transformer l'univers. Homo faber. L'homme dans sa dimension de travailleur. Et comprendre ce que représente cette dimension-là. Et cette dimension reste pour nous, je crois, la première dimension. Quand je dis la première, je ne veux pas dire la plus noble, vous comprenez bien. Je veux dire la première parce que c'est celle qui est le plus proche de notre expérience. Si vous analysez le nombre de vos expériences, normalement, c'est le travail qui l'emporte sur tous les autres. À moins que vous ayez lieu avec quelqu'un qui dort énormément et dira que ma grande expérience, c'est de dormir. Mais vous savez, l'expérience du sommeil ne conduit pas à une philosophie extraordinaire. Hein. Ça conduit aux rêves, et les rêves ne vous mènent pas très loin au point de vue philosophique. Ça ne mène pas très loin. C'est intéressant comme une matière secondaire, mais ce n'est pas une matière première. Tandis que le travail vous conduit à quelque chose de très, très vrai. Le travail maintient un réalisme. Tant qu'on travaille, on reste réaliste. Ça, c'est sûr. Et les psychologues reconnaissent que l'amour du travail maintient un certain réalisme. Alors évidemment, l'amour du travail, quand on fait un travail qui ne nous intéresse pas beaucoup, il faut du temps avant de l'aimer. Mais il faut toujours chercher, dans n'importe quel travail, la possibilité de l'aimer, pour que ce soit un travail humain, et que ça reste un travail humain. C'est ça que le philosophe va essayer de comprendre, c'est que le travail ne peut pas s'abstraire de l'homme. Et le travail reste une dimension humaine, et doit rester une dimension humaine. Et c'est l'homme qui transforme la matière. Même quand il est poète, il travaille. Parce qu'il travaille la parole humaine. C'est vrai, il y a un travail chez le poète. Quand il est sculpteur, on voit très bien ce qu'il travaille, c'est facile à comprendre. Mais quand il est poète, c'est plus difficile. On dit, oh oui, il est fantaisiste, il peut faire ce qu'il veut. Pas du tout. Le poète est conditionné par le langage. Et c'est pour ça que c'est autre chose d'être un poète de la langue française que de la langue grecque. Ce n'est pas la même chose. Il y a nécessairement une matière différente. Et dans chaque langue, il y a une matière différente. Il y a des langues plus ou moins proches du point de vue poétique. Et il y a des langues, au contraire, qui sont particulièrement proches de l'utilité. Et donc, beaucoup plus loin du langage symbolique du poète. Mais le poète travaille son langage. Et il essaie de travailler le langage pour retrouver dans cette matière particulière qu'est le langage, quelque chose qui lui permettra de faire une œuvre nouvelle à travers le langage. Comme celui qui travaille la matière brute va essayer de transformer cette matière. Donc l'homme domine l'univers pour le transformer à la taille de l'homme. C'est une des dimensions, pas la seule. La seconde grande expérience, c'est l'amour d'amitié. Toujours voir ces deux grandes expériences parallèles. Le travail qui est mesuré par le temps et l'amour d'amitié qui n'est pas mesuré par le temps. Vous voyez, comme c'est très curieux de voir que tout de suite, on voit cette dimension du temps qui intervient. Le travail est déterminé et conditionné par le temps. Il est même mesuré par le temps, plus que conditionné. Et le travail se trouve toujours dans un lieu. Les deux conditions du lieu et du temps sont présentes dans l'expérience du travail. Tandis qu'au contraire, dans l'expérience de l'amour d'amitié, on est au-delà du temps et au-delà du lieu. Parce qu'on ne regarde que la personne aimée. Qu'on soit au désert ou qu'on soit dans la ville, ça n'a pas d'importance. Pour le travail, ça a beaucoup d'importance. Tandis qu'au contraire, pour l'amour d'amitié, non, on est au-delà. Ce qu'on regarde, c'est la personne qu'on aime. Et la personne qu'on aime est notre univers. Ça, c'est le langage de tous les amoureux. C'est le propre. Que l'univers croule du fait que tu es là, c'est tout. Notre tout, c'est celui qu'on aime. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais ce langage-là dans le travail. Hein. Jamais, ça, c'est évident. Dans le travail, on n'aura jamais ce langage-là. On aura au contraire, dans le travail, ce langage extrêmement direct vis-à-vis de ce qu'on doit transformer. Donc, ces deux grandes expériences à laquelle va s'ajouter la troisième, la coopération, la solidarité. La solidarité. C'est très important de comprendre la coopération dans l'ordre du travail et la solidarité. Quand on coopère avec quelqu'un, dès qu'on coopère avec quelqu'un, on va tout de suite réaliser quelque chose de nouveau qui va être une certaine communauté. Quand il n'y a pas de solidarité dans le travail, quand il n'y a pas de coopération dans le travail, il n'y a pas d'œuvre commune qu'on réalise. Et donc, il n'y a pas de communauté. On est juxtaposé. Chacun travaille de son côté, on est juxtaposé. Alors, il y a une troisième expérience. Vous voyez, les trois grandes expériences sur lesquelles toute la philosophie réaliste repose. Le travail, l'amour d'amitié, la solidarité ou la coopération, qui fait qu'on est plusieurs ou deux, tout simplement, à travailler ensemble, à réaliser une œuvre commune ensemble. Je crois que ce sont les trois grandes expériences qui sont la base de toute philosophie réaliste. On vient toujours à ça. Une philosophie qui ne regarde pas l'homme comme travailleur, comme capable d'aimer un autre, comme capable de fonder une communauté, n'est pas une philosophie. Là, j'ai tout de suite un critère qui est très important pour essayer de comprendre ce qu'est une vraie philosophie. Une vraie philosophie doit pouvoir réfléchir, analyser, comprendre ce que représente le travail de l'homme ou le travail humain. Doit comprendre ce que représente ce dialogue de l'homme avec l'homme dans la confiance et l'amour d'amitié. Il doit comprendre ce que représente cette coopération, la communauté. Une communauté n'existe que dans la mesure où il y a une coopération. Quand chacun tire de son côté, vous savez bien, sans vouloir coopérer, alors il n'y a plus de communauté, il y a tout simplement une juxtaposition. Pas du tout la même chose, une juxtaposition d'êtres qui se regardent et se jalousent, et au contraire une coopération dans laquelle on se donne ensemble pour réaliser quelque chose de commun. Alors à ce moment-là, il y a une communauté. Une communauté, ça se fait. Et on est tous responsables d'une communauté, dans la mesure où on est membre de cette communauté. Et on la fait. C'est très curieux. Plus on est attiré vers soi, plus on critique la communauté, plus on se donne, alors plus on est engagé et on coopère. Alors moins on la critique, on n'a plus le temps. Parce qu'on est celui qui s'y donne et donc qui coopère. À partir de ces trois aspects fondamentaux, je peux voir comment nous pouvons découvrir une distinction très importante dans notre monde d'aujourd'hui, la distinction entre la connaissance dite pratique et une connaissance dite spéculative. Alors, il faut bien comprendre, hein, parce que le mot spéculation aujourd'hui, ça prend une autre signification. Une connaissance contemplative. Et je crois qu'il faut reprendre l'étymologie du mot spéculatif, parce que ça a changé au cours des âges. La signification de spéculation. Alors il faut dire contemplatif, puisqu'au fond, c'est le mot grec, une connaissance théorétique, c'est une connaissance contemplative, c'est-à-dire une connaissance qui recherche la vérité. Une connaissance pratique est une connaissance pour l'action, c'est une connaissance pour la réalisation, c'est une connaissance qui implique des éléments en vue d'une œuvre à faire, en vue d'un bien commun. Donc, c'est une connaissance qui est toujours ordonnée à l'engagement volontaire, qui est ordonnée à l'amour, qui est ordonnée à l'efficacité, qui est ordonnée à l'œuvre. Alors, la connaissance, à ce moment-là, ne peut pas se développer parfaitement en elle-même. C'est pour ça que la philosophie ne peut pas s'arrêter à une philosophie pratique. Parce que la connaissance est engagée, elle est ordonnée au côté affectif, dans l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, c'est l'amour qui mesure la connaissance. J'aime pour, du moins, je connais pour aimer. Et ma connaissance est ordonnée à l'amour. Au moment précis où vous connaissez, non plus pour aimer, et uniquement pour connaître, à ce moment-là, vous risquez toujours, de faire que votre amour d'amitié va recevoir un certain coût. C'est très curieux, ça. Dans l'amour d'amitié, on connaît l'autre pour l'aimer plus. Et c'est l'amour qui commande la connaissance que j'ai de l'autre. Tandis que le jour où vous voulez connaître l'autre pour lui-même, indépendamment de l'amour que vous avez pour lui, vous mettez quelque chose qui est au-delà de l'amour, votre propre connaissance. Alors ça peut être très bon, c'est pas condamnable. Mais faisons attention, comprenons que ce n'est plus une connaissance affective et ce n'est plus un amour. Ça peut être utile, comme on dira, je prends un peu de recul, je veux mieux voir la situation. Attention, ça peut être très dangereux et ça peut être quelquefois très utile. Mais si la connaissance est capable, et c'est ça qu'il faut essayer de saisir, la connaissance est capable de se mettre au-delà de l'amour. La connaissance est capable de se mettre au-delà de l'efficacité. La connaissance est capable de rechercher uniquement la connaissance pour elle-même. Et c'est ça qu'on appelle la connaissance théorétique. Une connaissance contemplative. Une connaissance dite spéculative. C'est la recherche de la connaissance pour elle-même. Et ça, c'est important de comprendre cela. C'est important parce que on doit laisser l'intelligence aller le plus loin possible qu'elle peut aller. Mais il faut comprendre que cette connaissance théorétique, cette connaissance dite spéculative, peut devenir ennemie de l'amour, peut devenir ennemie de l'efficacité. Et très souvent, ce qu'on dira, on dira « Ah, vous êtes philosophe !»« Ah, bon, très bien, non, oui. » Vous planez. Vous êtes au dehors de la réalité. Non, le philosophe commence par garder le point de vue pratique de l'homme. Le travail, en vue de mieux comprendre ce que c'est que le travail. L'amour d'amitié, la coopération. Mais le philosophe sait qu'en effet, il faut qu'il aille plus loin. Qu'il aille plus loin toujours en vue de mieux connaître ce que c'est que l'homme. Même cette connaissance théorétique est pour l'homme. Mais elle est pour l'homme d'une autre manière que la connaissance pratique. Là, il faut essayer d'arriver, hein. Ce n'est pas très commode pour nous. Depuis la dialectique hegelienne, ce n'est pas très commode pour nous d'arriver à bien distinguer ce que représente la connaissance pratique et la connaissance théorétique. Et c'est absolument indispensable d'arriver à distinguer les deux. Il faut partir de la connaissance pratique parce que c'est celle qui est la plus proche de nous. La connaissance que vous avez dans votre travail, la connaissance que vous avez dans l'amour d'amitié, la connaissance que vous avez à l'intérieur d'une coopération dans une communauté. Donc il faut reconnaître ce que représente cette connaissance pratique, cette connaissance affective, cette connaissance communautaire. Il faut reconnaître ce que c'est. Et puis, il faut essayer de comprendre le dépassement, l'émergence d'une connaissance qui va plus loin que la connaissance pratique. Il faut assister à la naissance de la connaissance théorétique. Il faut assister à ce besoin de la connaissance qui recherche la vérité. L'intelligence recherche la vérité. Alors, elle veut dépasser l'alliance de l'intelligence avec la volonté pour découvrir une intelligence qui est comme séparée. Une intelligence qui va se mouvoir pour elle-même et par elle-même en retrouvant le contact plus direct avec la réalité. Alors nous avons là trois grandes dimensions de la connaissance théorétique, toujours en vue de connaître ce que c'est que l'homme. Et c'est intéressant de voir comment ces trois connaissances pratiques, si je les regarde attentivement, vont donner naissance à trois autres connaissances, trois autres modalités de la connaissance. La connaissance théorétique qui essaie de comprendre les limites de l'homme, en regardant le corps de l'homme, la philosophie du corps. Je suis une partie de l'univers. Et donc je suis limité par l'univers. Je suis conditionné par le temps et le lieu. Ce n'est pas la même chose de naître au XXe siècle que de naître au Moyen Âge, que de naître avant l'arrivée du Christ. Ce n'est pas la même chose. Et ce ne sera pas la même chose que de naître dans 50 ans ou 100 ans. On est conditionné par son temps. Ça, le philosophe doit s'en apercevoir. Cette dimension qui est importante. On est conditionné par le lieu. Pas la même chose de naître en France que de naître en Amérique. Ou de naître autre part. On est conditionné. Cependant, c'est toujours la nature humaine. Il y a quelque chose de particulier. Alors, il faut découvrir ces limites de l'homme dans son conditionnement selon le point de vue du temps et le point de vue du lieu. On est parti d'un univers. Et le philosophe doit, à partir de là, essayer, dans la mesure où il le peut, de comprendre ce que c'est que la nature. C'est toute la grande connaissance de la nature, c'est-à-dire de la matière. Et vous comprenez comment naît cette connaissance. L'homme travailleur transforme la matière. Mais il ne connaît la matière qu'en la transformant. Le philosophe doit pouvoir connaître la matière pour elle-même. Et en elle-même, qu'est-ce que c'est que la matière ? Alors, dès que je regarde qu'est-ce que c'est que la matière, immédiatement, j'ai un regard sur l'univers et sur mon propre corps. Donc, philosophie de la matière, c'est plus la philosophie de la transformation de la matière et du travail, mais c'est la philosophie de quelque chose qui est antérieur, quelque chose que je n'ai pas fait, quelque chose qui ne relève pas de mon travail, quelque chose qui est comme un donné. C'est la philosophie du donné, de ce qui est donné avant le travail, avant mon amour. L'univers existait avant moi. J'en peux rien, et l'univers non plus. L'univers existait avant moi. Et toutes les recherches scientifiques montrent que tout homme a toujours pu dire que l'univers existait avant lui. On est donc en face d'une donnée très importante à saisir, que l'univers existait avant moi. Donc s'il existait avant moi, je dois pouvoir le connaître tel qu'il est en lui-même avant la transformation que je lui fais subir. Vous voyez, quelqu'un comme Nietzsche a très bien senti cette distinction. L'univers transformé par l'homme et l'univers qui n'est pas touché par l'homme. Alors c'est là où il parle du désert, c'est là où il parle de la montagne, c'est là où il parle de la mer. Et on sent très bien qu'il a beaucoup de peine d'accepter le désert, la montagne et la mer. Parce que c'est quelque chose qui est antérieur à l'homme. Alors il dit, quand on est dans la ville, l'homme est toujours présent. Quand on est dans le désert, l'homme est absent. Alors il dit, il y a un revêtement du divin à ce moment qui nous conduit à l'au-delà de l'homme. Et ça l'ennuie beaucoup. Vous voyez comment la connaissance spéculative, la connaissance théorétique, nous conduit tout de suite à un au-delà de l'homme. C'est quand même très important de saisir ça. Je ne saisis l'au-delà de l'homme que dans la mesure où je découvre qu'il y a une connaissance théorétique, contemplative, au-delà de la connaissance pratique. La connaissance pratique me met tout le temps en face de l'homme. De façons diverses, mais tout le temps en face de l'homme. La connaissance théorétique me fait toucher quelque chose de transcendant. Et c'est pour ça que dans une philosophie hegelienne, on n'accepte plus cette distinction. Et on comprend très bien. Et à partir de Hegel, tous ceux qui seront plus ou moins hegeliens et qui auront comme méthode la dialectique, seront tous dans la même position. On ne peut plus distinguer connaissance pratique et connaissance théorétique. Alors à ce moment-là, demandez tout simplement à un artisan. Il vous dira dans son bon sens, hein, ou un paysan. Ce n'est pas la même chose. Le travail de l'homme est la matière sur laquelle il travaille. Et que s'il est un bon artisan, il a besoin de connaître la matière sur laquelle il travaille. S'il n'a pas cette connaissance, il risque toujours de ne pas pouvoir réaliser ce qu'il désire réaliser. Parce qu'il y a un donné qui est avant, antérieur au travail. Il y a un donné qui est antérieur avant l'amour d'amitié. C'est ça qu'on se dit de temps en temps, j'ai aimé cette personne, mais je me suis trompé. J'ai cru qu'il y avait telle ou telle chose. J'ai projeté sur elle. Et il y a quelque chose qui est antérieur. Il y a une personne que je ne peux pas changer. En l'aimant, je la modifie. Il y a quelque chose de radical que je ne peux pas changer. Et je me heurte à ce quelque chose de radical, si je ne l'accepte pas, parce que je peux très bien le reconnaître. Et dans la mesure où je le reconnais, alors je vois très bien ce qui dépasse et ce qui est inclus dedans. Alors, vous voyez, premier dépassement, la philosophie de la matière. Second dépassement, la philosophie du vivant. Troisième dépassement, la philosophie de l'être. Alors, nous reviendrons sur ces trois dépassements. Parce que je crois que c'est important de saisir ces trois dépassements successifs que l'intelligence est capable de découvrir et qu'elle découvre à partir même de la connaissance pratique. Réfléchissant sur la connaissance pratique de ma transformation de la matière, de ma connaissance affective, je découvre qu'il y a nécessairement, si je supprime les a priori hegéliens, et dialectique, je découvre que nécessairement il y aura trois dépassements.